Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission reportage sur Microrebelle, donc accessible sur microrebelle.fr. J'ai le plaisir d'accueillir Grégory Picard. Bonjour Grégory.
Salut Lucien, bonjour à tous.
Grégory qui réédite un livre qu'il a écrit maintenant il y a plusieurs années, Les citoyens de la liberté. Donc on va avoir un entretien avec Grégory concernant cet ouvrage, cette nouvelle parution. Alors Grégory, si tu es d'accord, une première question. Peut-être, les citoyens de la liberté, est-ce que tu peux nous situer le contexte, la période, le territoire ?
Alors les citoyens de la liberté, c'est un ensemble de portraits de résistants et de résistantes des secteurs de Grenay, Bully, Le Sanguel notamment. Et donc, effectivement, bon, résistance, qui dit résistance, on est sous la Seconde Guerre mondiale en France, hein, dans le bassin minier.
La résistance, Bully, Grenay, Los Angeles, elle démarre comment ? Elle naît où ? C'est dans un quartier ? C'est éparse ? Comment ça se présente ?
Alors, sur le secteur de Grenay, Los Angeles, d'après ce que j'ai, d'après mes études, mes recherches, tout ça, les témoignages que j'ai eus, on peut dire que la résistance, tout au moins celle, le noyau, la résistance, la fameuse résistance FTP, franc-tireur et partisan, est née probablement dans, à la Cité 5, une Cité 5 qui est un peu partagée entre Grenay et Le Sanguel. Et on voit, il y a des, d'après les témoignages et les documents que j'ai eus, on voit qu'il y a des personnes qui, dès 41, fin 40, ils commencent déjà à faire des choses. Pas grand-chose, puisqu'on n'a pas forcément, ils n'ont pas de moyens, il ne faut pas rêver aussi, les résistants, même FTP, ils ont très peu de moyens, même après les, dans les années qui vont suivre. Et donc ce noyau, c'est, ça débuterait dans cette cité que j'ai appelée parfois Grenoble-Ossoise, la cité 5. Et d'ailleurs, ce qui n'est pas surprenant, puisque il y a Julien Appiot, qui était cofondateur de ce qui va devenir les francs-tireurs et partisans. Julien Appiot, ben, simplement, ben, il était de ce secteur-là, de Grenay, Los Angeles. Il travaillait à la fosse 5 de Los et il avait plein de copains qui étaient mineurs et qui sont devenus résistants et beaucoup ont été déportés, internés. Et voilà, donc.
Alors, tu évoques des mineurs. C'est majoritairement des mineurs ou ça n'est que des mineurs ou il y a d'autres catégories professionnelles ?
Alors dans les citoyens de la liberté, effectivement, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de résistants qui étaient mineurs. La corporation minière, tout ça, les gens dits du peuple se sont beaucoup investis, se sont beaucoup sacrifiés dans ce mouvement de la résistance. Toutefois, il faut être juste et il y a aussi des personnes, on va dire des notables, qui se sont, bon, assez peu, qui se sont mobilisés dans les mouvements de résistance. On peut notamment faire la remarque, c'est citer un nom au moins, c'est Michel Verbrugge, le docteur Michel Verbrugge, qui était dans la résistance et qui même faisait partie du comité départemental du Front National de Libération et pour l'indépendance de la France, et notamment aux côtés du fameux résistant René Lannoy, qui est parfois honoré dans certaines villes, puisque il n'est pas rare de voir une plaque, une rue René Lannoy, et notamment à Grenay, hein, puis à Los Angeles, en tout cas à Lens aussi, hein, je crois.
Alors tu évoques un petit peu les catégories professionnelles. Est-ce que tu peux évoquer les engagements politiques ? Donc Julien Appiot, bon, il était communiste, alors. Ces résistants, ce sont des communistes ou il n'y a pas que des communistes ? Comment ça se présente ?
Alors, effectivement, au niveau de l'engagement des résistants, je veux dire, il y avait beaucoup de résistants qui étaient de sensibilité politique communiste. Hein. C'est clair que aucun travail sérieux d'historien qui parlerait de la résistance, et notamment dans le bassin minier, on peut pas ne pas dire qu'il y avait des résistants communistes. Après, dire qu'il y avait que des communistes dans la résistance, ça serait pas juste non plus. On a eu aussi des gens sans véritable attache politique. Il y a eu des gens qui étaient membres du Parti Socialiste. Et puis, il y a aussi des personnes qui, comme on dit, c'était des gaullistes avant l'heure. On peut reciter, effectivement, Michel Verbrugge, le docteur Verbrugge, mais aussi, on peut citer aussi Aristan, qui a marqué son empreinte le secteur de Grenelle, Sangouel et ailleurs. C'est Louis Pont. Louis Pont, qui était commerçant à Grenelle. Et donc, effectivement, on a vraiment deux types de résistants, mais de sensibilité, on va dire. C'était des gaullistes avant l'heure.
Et puis peut-être aussi des personnes qui s'engageaient au travers de leur foi, qui étaient des catholiques.
Voilà, c'est ça. Il y a eu, par exemple, Jeanne de Laforge. Jeanne de Laforge, enfin, qui est devenue plus tard Jeanne de Laforge, qui était infirmière pour le mouvement Libération, un autre mouvement de résistance. Et effectivement, elle était membre des JOC, des Jeunesses Ouvrières Catholiques.
Alors ton livre, Les Citoyens de la Liberté, hein, donc... C'est une galerie de portraits, mais au travers de cette galerie de portraits, on peut quand même, en filigrane, détacher plusieurs thématiques phares. Si tu es d'accord, on va en aborder quelques-unes. Hein. Je vais me permettre de te tendre des questions sur des thématiques peut-être un peu plus ciblées. Je voudrais commencer par te proposer d'évoquer la grève des mineurs de mai-juin 41.
Alors la grève, effectivement, la grève de mai-juin 41, qui malheureusement n'est pas assez connue, c'est un mouvement de masse énorme. C'est probablement un des mouvements de masse de résistance les plus importants dans l'Europe occupée. Hein. Et ça, effectivement, on retrouve notre corporation des mineurs, nos amis mineurs, qui effectivement en mai-juin 41 se soulèvent et puis pendant une quinzaine de jours et puis... Effectivement, c'est un mouvement important qui va aussi mobiliser. Il y a pas mal de gens qui vont entrer dans la résistance après ce mouvement-là. Donc, et donc, c'est une grève. Les mineurs vont se battre pour leurs conditions de travail, mais aussi, effectivement, dans un contexte comme celui de la Seconde Guerre mondiale, l'occupation. Effectivement, il va y avoir quelque chose de patriotique dans cette grève. Donc, c'est vraiment un mouvement extrêmement important. Et on peut rendre hommage aux femmes, parce que bon, il y a eu 100 000 mineurs et qui ont été, qui se sont mis en grève, et ils ont été soutenus courageusement par les femmes. Donc la grève des mineurs a commencé à la fosse du Dahomey à Montigny-en-Goële. Hein. D'ailleurs, tous les ans, il y a une cérémonie en hommage à ces résistants, à ces mineurs.
C'est une grève anti-production, en quelque sorte.
Oui, voilà, c'est ça. C'était l'idée aussi, le matériau partait en Allemagne nazie pour l'industrie de l'armement, effectivement, ralentir la production minière à travers cette grève, c'était effectivement un acte de résistance, c'était effectivement gêner la production et donc faire du mal. Enfin, c'est résister contre l'occupant.
Tu évoques les aspects patriotiques, le patriotisme. Quel est l'état de cette question? Notamment, il y a une expression dans ton livre, hein, un sentiment anti-Boche très fort.
Bah, effectivement, il y a eu... nous, la région Nord-Pas-de-Calais, on a été occupé en 25 ans, on a été occupé deux fois par les Allemands. Au niveau de ces motivations des résistants, effectivement, on peut parler... le sentiment anti-Bosch. Il y a plusieurs résistants, enfin, il y a des portraits dans lesquels. Enfin, j'écris qu'effectivement, il y a des résistants qui se sont battus aussi un peu pour leur père, parce qu'ils ont perdu des parents pendant la Première Guerre, ou alors leurs parents, ils ont été marqués par la Première Guerre mondiale, et effectivement, ce sentiment anti-Bosch était très fort. Et effectivement, c'était une des motivations de l'engagement du résistant, tout au moins du bassin minier.
Et puis on peut peut-être rappeler que dans le bassin minier, l'occupation, c'était quelque chose de très visuel. Typiquement, les Allemands étaient en mairie de Grenay.
Ouais, voilà, c'est ça. L'occupation était très forte, très dense. Il y a certaines régions, je crois, comme le Cantal, où on voyait quasiment pas l'occupant. Nord-Pas-de-Calais... Enfin, les troupes allemandes étaient très, très denses, puisque pour deux raisons. Je pense que c'est jusqu'au bout, les Allemands, les nazis ont pensé que le débarquement, on en a parlé il n'y a pas longtemps, hein, le débarquement allait avoir lieu sur les côtes du Pas-de-Calais, du Nord-Pas-de-Calais. Et donc effectivement, ils s'attendaient à ça, donc forcément, il y avait une concentration de troupes. Et puis aussi, après, il y avait aussi la région minière. On exploitait au maximum ces pauvres mineurs, la pauvre région. Et puis après, il y a aussi, je pense que ce mouvement de résistance, et ce tissu résistant, ce maillage de résistants, était pas négligeable. Donc je pense que la répression, en plus, elle était très forte. On a beaucoup payé. Les résistants de notre bassin minier ont beaucoup payé leur engagement. Ça a été entre les larmes et le sang.
Alors tu as commencé à l'évoquer en filigrane. Si tu veux, on va y revenir peut-être un peu plus dans le détail. Les femmes, la place des femmes dans ces mouvements de résistance.
Dans les citoyens de la liberté, on pourrait dire les citoyennes de la liberté, elles. effectivement, les femmes, voilà. Elles se sont engagées, dans la résistance. Elles ont fait preuve d'au moins autant de courage que les hommes. On a d'ailleurs, j'ai dédicacé mon livre à une dame qui est toujours parmi nous, Pascaline Van Dorn, dite mascotte. Donc c'était le surnom de ses copains. Enfin, ses copains l'appelaient la mascotte. Et donc, effectivement, c'était une des dames qui, à 18 ans, elle s'engage dans la résistance FTP, l'agent de liaison. Et donc, effectivement, les femmes viennent en renfort à l'action des hommes. Bon, c'est rarement des femmes qui prennent les armes et qui font font de la résistance dure, on va dire. Mais elles sont agents de liaison, elles transmettent des messages, tout ça. Elles s'occupent de tout ce qui est rédaction de tracts, tout ça. Mais elles ont joué un rôle important. Et je pense qu'aussi, en 1946, à la libération, enfin après la guerre, tout de suite après la guerre, ils ont le droit de vote, je pense qu'ils le méritaient. Et ça a joué, je pense, leur engagement dans la résistance pour plus tard, après, très vite, avoir le droit d'être élus aussi, parce que de voter, mais d'être élus aussi.
Alors les femmes et les étrangers dans la résistance?
Les étrangers, effectivement, dans les citoyens. On a au moins deux, trois, enfin quelques cas de résistants, notamment polonais, parce que nos amis polonais qui étaient venus travailler en France, qui étaient, bon là on a deux exemples, notamment de Kazimierz Ruszalski et Mieczysław Gabrielczyk, deux résistants, l'un a été déporté, l'autre a été tué au moment de la libération en septembre 1944. Effectivement, donc nos amis polonais, ils se sont battus pour leur terre d'accueil. Il y a eu aussi les frères Frankowicz, dont Joseph, qui a été déporté, et donc qui était italo-yougoslave. Voilà, et donc, on a beau être étranger, mais quand il faut se battre pour leur terre d'accueil, je crois qu'ils ont, voilà, ils ont fait un bel effort aussi. Ils se sont sacrifiés pour que notre terre soit libérée.
Alors, tu évoques à plusieurs reprises les FTPF. Est-ce que tu peux détailler un petit peu comment ils sont nés, comment ils étaient organisés sur le territoire Los Buligronais, quelles étaient leurs activités officielles, clandestines?
Les FTP, on a d'abord parlé, la résistance a d'abord parlé, ils parlaient des OS, ce qu'on appelle les organisations spéciales, qui ont donné un plus tard naissance donc aux francs tireurs et partisans français. Donc c'était la branche armée. Alors, il y avait un socle, c'était le Front National de Libération et d'Indépendance de la France. Et donc la branche armée de ce Front National de Libération et d'Indépendance de la France, c'était les FTP. C'était donc la branche armée. Donc c'était largement dans le pays, c'était les attentats, quand même, parce qu'il faut dire, bon, c'est toujours maladroit peut-être de parler d'attentats, mais c'est des gens qui se battaient pour leur pays, pour la liberté. C'est ça, c'est les sabotages, tout ça, les récupérations de matériel, tout ça. C'était la branche armée de la résistance, hein, et c'est eux qui étaient là aussi à la libération et qui ont beaucoup aidé aussi. Parce que bon, il y a eu le débarquement en Normandie, mais même Eisenhower, il a rendu hommage aux résistants qui ont sauvé finalement par leur action à l'intérieur. Ils ont sauvé beaucoup d'Américains et d'alliés. Hein.
Alors, les aspects attentats et puis les aspects renseignements. Alors, comment elle se traitait cette question ?
On va revenir à l'exemple, c'est de Louis Pont qui a créé un service de renseignement. Louis Pont, il a fait la Première Guerre mondiale et il était observateur pendant la Première Guerre mondiale, donc. Et c'est un monsieur, tout de suite après sous la Seconde Guerre mondiale, il a repris des réflexes, enfin, il a ressorti ses jumelles, et puis son petit carnet, et puis a noté tous les déplacements de troupes, tout ça, et il a fait des photos discrètement sur certaines choses et tout ça. Donc il donnait des informations, notamment aux Anglais, et effectivement, la résistance, c'est ça aussi, c'est le renseignement. Hein. Donc, et je pense que Louis Pont est un bel exemple de ça, de ces gens qui étaient l'œil des alliés sur le territoire et qui transmettaient les éléments qui permettaient aux alliés, enfin qui aidaient les alliés comme ça.
En face, c'est l'inverse, hein. On ne se laisse pas faire, il y a la répression, la déportation, le désinternement. Quelle réalité ça recouvre ?
Bah, de toute façon, en termes de chiffres, je crois que c'est toujours compliqué. Hein. Même les historiens, il me semble, ils sont jamais d'accord sur le nombre de personnes déportées, tout ça. Mais la répression, c'était extrêmement dur. De toute façon, on a en face le système nazi. Hein. Quand ils sont arrivés en mai 40, à Oigny, à Aubigny-en-Artois, ils ont massacré des gens. Allez, on va dire, vous voyez, les SS, ils arrivent. Vous voyez, comme ça, on donne tout de suite le là à la population. Les redire, vous n'avez pas intérêt à mouffeter et de bouger parce que on arrive en seigneur et voilà. La répression déjà, au moment où ils arrivent, puis la répression aussi, effectivement, les internements, les gars qui sont fusillés, on a 218 fusillés à la cité de l'Arras. Hein. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'y aller à la cérémonie en septembre, ça peut être aussi intéressant d'y aller parce que c'est quand même, en plus dans les fossés de la citadelle, c'est très impressionnant. La cité de Narras, le fort de Seclin, il y a un gars comme Pierre Brixy ou même un Liévenois d'Edouard Levis qui a été fusillé là-bas au fort de Seclin. Voilà, et on parlait de la grève de mineurs de 1941. Il y a entre 200 et 300 mineurs qui ont été déportés. Ils ont été envoyés à la forteresse de Huy en Belgique, prêts pour aller être envoyés en plus en Allemagne nazie. Donc la répression est terrible. La répression est terrible, forcément. On a un peuple qui résiste, peuple de mineurs, peuple du bassin minier qui résiste, forcément. Il y a la répression au bout et les nazis font pas de sentiment.
Tu viens juste de l'évoquer, hein, deux citadelles en quelque sorte, la citadelle d'Arras, la citadelle de Huy. Je ne sais pas si elles sont très connues. Est-ce que tu peux peut-être revenir sur ces deux institutions en quelque sorte ?
La citadelle, je pourrais surtout parler de la citadelle d'Arras, on disait, il y avait une cérémonie au mois de septembre. Je vous dis, c'est 218 fusillés. On parlait d'FTP, 218 fusillés, c'est beaucoup, beaucoup de FTP. On voit sur les plaques qui ont été installées après la guerre, on voit que c'est beaucoup de FTP et beaucoup, beaucoup, beaucoup de mineurs. Notamment, on parlait tout à l'heure de Julien Appiot. Il a été fusillé donc en septembre 43, le 13 septembre. Voilà, c'est vraiment un lieu qui montre vraiment la citadelle de la race, que la répression était terrible. Le fort de Seclin aussi, il y a eu des fusillés. Je parlais je crois, de Pierre Brixy tout à l'heure. Qui a été fusillé, Édouard Levis, le Liévinois. Et puis voilà, et puis après aussi, on peut peut-être parler de la forteresse de Huy, citadelle de Huy, en Belgique, hein, là où a été déporté, donc interné, ces fameux mineurs qui se sont révoltés. Notamment, on peut citer le nom de Marceau Tillois, qui a été envoyé dès 1941 cette citadelle de Huy. Alors on dit que c'est des internés, mais enfin, les conditions de vie là-bas, si on peut parler de vie, étaient tellement terribles qu'on peut peut-être déjà même parler de déportation. C'est vraiment, c'est l'antichambre de l'horreur, quoi. C'est vraiment. Donc ensuite, ils sont envoyés là-bas en Allemagne nazie, et puis bon, dans les conditions qu'on peut imaginer.
Alors ton livre donc fourmi de thématiques, de points d'accroche très très différents. J'en ai relevé une sur laquelle je te propose d'intervenir, c'est le train de l'os.
Le train de l'os, effectivement, le train de l'os qui a été, en fait on dit le train de l'os, en fait il est parti de la gare de Tourcoing. Pourquoi train de l'os? Parce que beaucoup de prisonniers qui étaient dans ce, qui ont été embarqués dans ce train de l'os étaient prisonniers dans la prison de l'Os-les-Lille. Donc 1er septembre 44, c'est le dernier convoi de la région déporté, peut-être même de France. Les résistants ont essayé de l'arrêter, mais ils n'ont pas réussi. Donc voilà, les nazis voulaient faire. Ils savaient qu'ils avaient perdu, mais ils ont été jusqu'au bout dans leur sadisme. Ils n'ont pas baissé les bras dans leur barbarie. Et donc ils ont envoyé des gars par le dernier train de l'os vers. Un convoi vers l'Allemagne nazie, vers les camps de concentration. Évidemment, très peu de gens sont revenus.
Alors la résistance, bon, c'est des hauts faits tels que ceux que tu viens d'évoquer, hein, renseignement, attentats, sabotage. Mais la résistance, c'est aussi des trahisons, la collaboration.
Voilà. Voilà, c'est ça. C'est malheureusement. Et entre le marché noir et la trahison, il y a des tas de résistants, de résistantes qui ont été trahis, hein, par les gens qui l'entouraient. On a l'exemple de Mireille Tillois qui se rend à rendez-vous à Berlin. Il y a un traître qui informe l'occupant et lui dit voilà, il y a une dame qui va se pointer, son vélo, ben, il grince simplement. Voilà. Ben voilà, donc Mireille Tillois va son rendez-vous et puis elle se fait repérer. Résultat, se fait arrêter et puis elle se fait déporter contre son mari, parce que on parlait de Marceau Tillois qui a été déporté lui suite à la grève de mai-juin 41. Et Mireille, je crois que c'est en 42 qu'elle se fait arrêter. Et donc elle est envoyée dans les bagnes nazies. Donc effectivement, entre le marché noir, la trahison, tout ça, c'est une période très ambiguë. Et c'est pour ça que la résistance, c'est important d'en parler, parce que c'est la dignité, ça symbolise la dignité. Alors on peut pas dire que les résistants, c'était des saints, faut pas non plus. Mais effectivement, c'est quand même. Ils savaient, quand ils entraient en résistance, ils savaient ce qu'ils risquaient. Et donc, on peut leur dire bravo, parce que, franchement, dans un contexte entre l'occupant, la police, l'état de Vichy, les fascistes et tout ça, moi, je leur tire mon chapeau, parce qu'il fallait un sacré courage. Et ça, bon, voilà, quoi. Peut-être qu'il parfois manque un peu de ce courage-là dans notre société, hein. Voilà, en tout cas, c'est des exemples. Tous ces hommes et ces femmes, et parfois qu'ils étaient très jeunes, et qui sont morts très jeunes, puisqu'on parlait de la citadelle d'Arras. Je pense que, ne serait-ce qu'à l'exemple de Roger Vermersch, qui avait peut-être même pas 19 ans quand il a été fusillé.
Alors, trahison, un exemple qu'on peut relever au travers de ton livre, hein, Les citoyens de la liberté, c'est Ezecour Lebas. Sans doute une trahison. Tout à l'heure, tu évoquais également Pascaline Van Dorn, hein, qui y était. Est-ce que tu peux revenir sur cet événement?
Ah, effectivement, ouais, ça, c'est un bel exemple aussi de trahison. Et Ezecour Lebas, c'est un petit village de la Somme où il y a une petite cérémonie, ben, bientôt, là, la prochaine fois, ça sera le 30 juin. Petit village de la Somme, près de Péronne. Et effectivement, il y a une vingtaine de résistants FTP qui étaient partis pour le front. Ils avaient entendu sur. Les antennes, les ondes, qu'il fallait renforcer le front d'Ardennes. Donc ils étaient partis savait pas, de bon, toute façon, on savait pas quel ordre qui avait balancé ça, mais bon, ils partent, ils sont enthousiastes, hein, c'est, il y a eu le débarquement, sont, voilà, c'est presque la libération, ils sont enthousiastes, donc ils partent la nuit par les petits chemins, machin, et puis ils arrivent dans un petit village, Ezecourt-le-Bas, ils s'installent dans une ferme, ils disent rien, voilà, ils s'installent, ils se mettent dans la ferme, ils sont une vingtaine, et puis très vite, effectivement, les Allemands, l'occupant, arrivent, hein, les interpellent, il y a une grosse bagarre, et puis il y a au moins trois résistants FTP, il y a trois résistants FTP qui sont tués enfin dans le village. Effectivement, Pascaline Van Dorn, qui est toujours vivante, me disait que elle était persuadée que... Elle parlait d'un certain Fernand, un gars qui se faisait appeler pas Fernand, qui s'était rattaché au groupe et qui après avait disparu, mais voilà, elle était persuadée, elle a toujours été persuadée qu'elle a été trahie par ce gars-là, quoi.
Ah, peut-être toute dernière question sur des citoyens de la liberté. Le mouvement Voix du Nord, a priori 6 ou 7 grenésiens en faisaient partie. C'est quoi sa réalité? C'est quoi ce lien avec le journal La Voix du Nord?
Oui, ben, tout le monde, effectivement, on ne sait pas tous que La Voix du Nord a été créée à Lille en 1941, et c'était un mouvement de résistance à la base. Et mouvement de résistance, effectivement, qui après a distribué des tracts contre l'occupant, tout ça, effectivement, à la base. La Voix du Nord, effectivement, c'est un réseau de résistance.
Avec donc des habitants du bassin minier.
Des habitants, effectivement, du bassin minier. Oui, c'est né là-bas, sur l'île, mais effectivement, ça s'est développé. Effectivement, il y a fait effectivement des membres de la Voix du Nord, notamment sur Grenet.
Si on pouvait aborder la fin de la guerre, hein, et les comités à la libération.
Voilà, il y avait des comités départementaux clandestins sous l'occupation de libération. Il y avait ensuite aussi, ils ont créé aussi des comités de libération locaux, effectivement, pour faire vite, en fait, comme disait un résistant dans un de ses courriers que j'avais récupéré, Arthur Eloy, qui était membre du comité de libération de Grenay. Arthur Eloy disait que c'est un peu comme un conseil municipal, quoi. Je veux dire, et qui, voilà, à la libération, ils vont s'occuper des affaires courantes, enfin, avec les petits moyens qu'ils ont. Donc il y aura effectivement, c'est des résistants qui vont être membres de cette organisation, de ces comités, qui vont représenter, différentes organisations. Certains, bon, ça va être le Parti communiste, le Parti socialiste, des mouvements de résistance, tout ça, la FTP, voilà. Et donc, il y aura notamment deux exemples sur Grenay-Losanguel de résistants qui vont devenir maires. On a donc le docteur Verbrugge, qui donc officiellement sera maire de Grenay, donc président du comité de libération. Et puis, on a l'exemple notamment de Maurice Delbar. Maurice Delbar de Losanguel, résistant qui habitait Losanguel, grand résistant aussi, et haut responsable. Et donc, il sera à la libération président du comité, donc maire de Losanguel aussi.
Alors, les citoyens de la liberté, c'est de nombreux portraits, hein, d'hommes et de femmes. Hein. On en a évoqué plusieurs lors de cet entretien, Michel Verbrugge, Louis Pont, Jeanne Delforge, Pascaline Van Dorn, Julien Piot, les Tillois. Arthur Eloy, etc., etc. Tu viens d'évoquer Maurice Delbar. Beaucoup de Grenésiens. Maurice Delbar, c'est un Lossois.
Le Sangoulin, oui.
Et Bully-les-Mines.
Bully-les-Mines, alors, on peut, si on veut parler d'un résistant marquant de Bully-les-Mines, effectivement, il faut quand même. Bon, on peut parler de Françoise Gloua aussi, qui tenait un café. C'était le Café de l'Étoile à Bully. C'est la copine à notre amie Pascaline Van Dorn. Et effectivement, avec sa mère Marie, Françoise Gloua a tenu un café. Et effectivement, on sait le rôle des cafés, des estaminets dans la résistance, et puis aussi donc en personnalité marquante dans la résistance, il y avait, on peut citer René Play. René Play, qui était d'ailleurs, on va dire, un des adjoints, qui était en contact avec le grand responsable, le grand résistant René Lannoy.
Très bien, mais écoute Grégory, merci pour toutes ces informations. Donc là, on a évoqué les citoyens de la liberté. Maintenant, on va peut-être évoquer le contexte du livre. Hein. Donc typiquement, tu évoquais, tu n'es pas historien. Alors qu'est-ce qui t'amène à faire ce livre? Et puis au départ, à faire ces articles, parce que ce sont quand même des articles de journaux à la base.
Voilà, tout à fait. Pendant 3 ans, parce que c'est un peu des recherches pendant 3 ans, effectivement, je propose au journal Nord et Clair. Au début, j'ai proposé, j'étais correspondant de presse. D'ailleurs, je venais ici à l'agence de Liévin, quand elle était encore là, l'agence de Nord et Clair. Je suis correspondant de presse. Bon, j'ai un attachement pour l'histoire. Je récupère quelques éléments pour faire des petits articles d'histoire locale. Bon, voilà quoi. Et puis, à l'époque, j'avais un contact avec Daniel Breton, l'ancien maire de Grenay. Daniel Breton, qui avait été marqué par une personnalité. C'était Jeanne Camus, qui était une résistante, qui avait hébergé Vassil Poric, un résistant, un membre de l'armée rouge. Vassil Poric avait été prisonnier ici dans le secteur. Donc Jeanne Camus avait hébergé quelque temps Vassil Poric. Elle habitait Grenay. Et donc, Daniel Breton me dit, il avait été marqué par cette personnalité, cette dame, cette petite dame, mais petite mais grande quand même aussi. Jeanne Camus, il me dit, ben alors, pourquoi tu fais pas un petit portrait sur Jeanne Camus? Parce que je crois que j'avais fait quelques portraits déjà, mais avec des gens, des personnalités locales, mais rien à voir avec la résistance. Il me dit, ben fais, tu fais pas un petit truc sur Jeanne Camus, ça serait pas mal. Ben, je dis, oui, on va faire des petites recherches. Donc j'avais rencontré René Camus, qui à l'époque habitait Méricourt. Puis effectivement, il était content, donc il m'a apporté son témoignage, des éléments. J'ai pu faire un portrait sur Jeanne Camus. Et puis forcément, la personnalité de Jeanne Camus était tellement attachée à celle de Vassil Poric, le grand résistant Vassil Poric, le grand résistant ukrainien, lieutenant V, on l'appelait le lieutenant V. Et donc du coup, René Camus avait une photo, avait des éléments. J'ai fait un article sur Vassil Poric. Ensuite, je rencontre ma copine, Pascaline Van Doorn. Je lui dis, tu ne peux pas apporter ton témoignage, Pascaline. Bah, allez, vas-y, je t'explique, je te raconte. Notamment Ezecourt, la fameuse, où il y a de la bagarre. Je fais un portrait sur Pascaline, je fais un portrait sur son mari qui a été déporté, qui était résistant dans le secteur de Grenay, Mazagarn, Vermel. Il était quand même déjà, il y avait des belles responsabilités, enfin, c'était quelqu'un, un personnage aussi. Edouard Van Doorn. Puis Pascaline dit, faut pas oublier les copains. Hein. Forcément, les copains qui ont marqué sa jeunesse, qui ont été déportés, qui sont morts en déportation. Donc, il faut parler de Roland Canon. Roland Canon. Eh ben, on fait un portrait sur Roland Canon. On retrouve avec Pascaline, elle me donne un coup de main. Et puis on retrouve son demi-frère qui vient de Paris et qui se ramène avec tous ses documents. Et puis finalement, il nous les laisse parce qu'il se dit, bon, t'as 100 mois, vous avez une association d'histoire. Vous faites ce travail-là, gardez ces documents, ça vous servira. Donc Roland Canon, Pierre Brixy qui a été fusillé au fort de Seclin. Et puis après, je récupère une liste de noms de déportés, de fusillés. Puis de fil en aiguille, voilà. Et comme visiblement ça intéresse le journal et surtout les lecteurs, et donc d'ailleurs, il y a même eu une anecdote où Daniel Breton, une fois, il me rencontre, il me dit tout content, il se pointe, il dit hey Greg, c'est bien ce que tu fais. Je viens de croiser Othello Trony, qui était résistant tout jeune, et il me dit j'achète le journal rien que pour les articles. Bon, voilà. Donc, bon, vous voyez, c'était un petit peu. Les gens lisaient, mais c'était pas seulement que des gens de Grenay ou de Los Angeles, c'était des gens, bon, il y a Othello Trony qui lisait ça, Billy Montini, ça l'intéressait forcément, ça, c'était sa jeunesse, ça l'avait marqué. Voilà, donc de fil en aiguille, on se retrouve, je crois, avec à peu près 80 portraits. Et puis, effectivement, devant cette somme de travail, enfin, On se dit, bah, on était en association à l'époque, ça s'appelait les Amis de la Résistance. Et donc, du coup, bah, on se dit, bah, on ferait pas un livre. Et puis, effectivement, en 2000, en mai 2000, on a sorti ce livre, Les Citoyens de la Liberté, qui, aujourd'hui, va être réédité.
Alors, justement, pourquoi le rééditer ? Ça, c'est peut-être une première question. Et puis, entre ces deux éditions, hein, celle de 2000 et celle de 2019, quelles sont les différences, les évolutions, les nouveaux apports ?
Alors, globalement, ça reste. C'est toujours à la base, c'est toujours des portraits. Moi, j'ai voulu avoir une autre approche. Et puis, j'ai voulu mettre en avant des moments forts, des dates importantes, des aspects forts de la résistance. Et on vient de l'évoquer. Donc, les mouvements FTP, la grève des mineurs de 41, la forteresse de Huy, la citadelle de la race. Donc, l'engagement des commerces et des femmes dans la résistance. Donc ça, j'ai voulu, c'était important de mettre ça en exergue, hein, que le lecteur puisse bien retenir ces points forts de mon livre. Et donc, on va avoir quelques portraits en plus, on va avoir des photos inédites, complètement inédites, et puis des documents inédits. Donc j'avais récupéré, j'ai fait un travail complément aux archives départementales de la ville, et puis puis après aussi des documents que les familles m'avaient transmis, mais après j'avais récupéré des photos et des documents inédits et qui ont été transmis, mais qu'après la publication. Donc je me suis dit, avec la réédition de ce livre, ça serait intéressant de pouvoir les mettre. Après, pourquoi ça a été réédité? Bah, de toute façon, pendant des années, il y a des personnes qui nous demandaient, ils voulaient cet exemplaire, un exemplaire de ce bouquin, mais malheureusement, on leur disait, bah, écoutez, on a fait 1500 bouquins, beaucoup de familles, enfin les familles ont acheté pas mal de bouquins, et ça s'est vendu pas mal, et malheureusement, on n'a plus de bouquins, et pendant des années, effectivement, il y a eu des gens qui ont demandé. Après, on s'est décidé. Après, bon, on en a discuté aussi. On a échangé avec le maire de Grenay, Christian Champiret. Et puis, Christian Champiret, qui est très attaché à cette mémoire, puisqu'en plus, il est enseignant d'histoire, professeur d'histoire. Donc, il est très attaché à cette perte de l'histoire. Et il sait combien les personnes qui partagent la même sensibilité politique que lui se sont engagées dans cette libération de notre pays. Donc il m'a dit, moi il n'y a pas de problème, tu édites ce bouquin, il n'y a pas de problème, on te soutient. Et effectivement, il nous soutient, il a tenu sa parole. Donc la mairie va acheter un certain nombre de bouquins et donc on va présenter ce livre à la médiathèque Estaminet.
Très bien, donc Les Citoyens de la Liberté, hein, de Grégory Picard. Où est-ce qu'on peut le trouver? Comment on peut l'acheter? Comment on peut prendre connaissance du livre? Il faut écrire quelque part, il faut téléphoner, il y a une adresse mail. Comment on peut faire? C'est dans les bonnes librairies, je suppose, mais...
Voilà, le bouquin, pour l'instant, bon, il va arriver là, très prochainement, effectivement. Mais enfin, là, ça sera surtout auprès de l'auteur que vous pourrez récupérer les exemplaires. Il y a une centaine, 130, 135 bouquins qui ont été réservés. Donc il y a des gens, il y avait une prévente, donc ils ont pu bénéficier du tarif de la prévente. Et il faut surtout me contacter. Après, bon, n'oublions pas que ce bouquin va être édité aux éditions du Jet Bleu à Lille. C'est une maison d'édition de Lille. Mais bon, voilà, moi je suis au 06 74 53 80 75. Donc je répète, le 06 74 53 80 75. Ou là, vous pouvez m'envoyer un mail, Picard, PICART, donc Grégory sans point, sans accent, @grenet, donc c'est AY à la fin, grenet.fr.
Très bien, eh bien, merci Grégory. Donc, Les Citoyens de la Liberté, hein, édition du Jet Bleu par Grégory Picard. Vous avez eu les coordonnées téléphoniques et courriels. Merci Grégory, et puis
merci
bonne continuation.
Merci à Lucien, merci à toi.